famille. Agriculture. Santé. Sens critique. Expérience. Analyser pour décider. En direct du studio RE/MAX Rivière-du-Loup. Bonjour Grand Portage.
h 07, vous écoutez Bonjour Grand Portage, deuxième édition pour cette semaine, en ce 23 avril 2024. On a le plaisir ce matin de s'entretenir avec le président de Dubreton, M. Vincent Breton. Bon matin.
Bonjour.
On apprend premièrement que vous avez signé une entente pour l'approvisionnement de porc certifié bien-être animal avec un producteur de l'Ontario.
Exact, oui.
Donc, quelle est cette entente-là et qu'est-ce que ça implique?
Bon, comme vous le savez, probablement, là, Dubreton, depuis déjà 2019, là, on fait de l'élevage uniquement biologique et certifié bien-être animal. Là. Il n'y a plus de porc d'élevage de type conventionnel dans notre usine à Rivière-du-Loup, là, puis on ne transforme plus ces produits-là. On a, avant la période des fêtes, annoncé des contrats avec les producteurs du Québec, mais là, l'enjeu qu'on a, c'est que la loi de la mise en marché collective et les règlements actuels ne nous permettent pas d'aller chercher d'autres producteurs, donc on doit se tourner vers les provinces voisines pour aller pour avoir des ententes avec des producteurs qui produisent selon ces normes de bien-être animal-là, qui sont plus élevées là, que les produits conventionnels.
Là. Oui. Est-ce que cette entente-là, justement, est en lien avec ce qu'on appelle le bras de fer que vous avez avec ce plan conjoint-là?
Bien, oui et non, dans un sens, c'est que à partir du moment où vous avez besoin d'approvisionnement, vous êtes une usine, que ce soit une usine de porc de n'importe quel produit, ben, que vous avez des approvisionnements, vous avez besoin de trouver des fournisseurs. Et lorsque les règlements, ce qui se passe au Québec, c'est que les règlements actuels et la loi de la mise en marché collective et la convention d'achat entre le syndicat des producteurs et des acheteurs ne nous permet pas d'avoir de nouveaux producteurs pour travailler avec nous. Donc, on n'a pas vraiment d'option. Fait que dans ce sens-là, c'est pas nécessairement relié, mais le fait qu'on soit obligé d'aller à l'extérieur pour s'approvisionner, c'est la conséquence directe là, des lois actuelles.
OK. Ben, revenons justement sur ce dossier-là qui mène aussi à une pétition qui est en cours. On est rendu à combien de signatures pour la pétition?
Hey, la dernière fois, on a des appuis intéressants. Hein? On a l'Institut oui. Jean Garon qui nous appuie. On a également l'Association des producteurs bio canadiennes qui nous appuie. On est rendu, la dernière fois que j'ai vérifié aussi, la semaine dernière, je pense qu'on était à plus de 2500 noms.
Oui. Est-ce qu'on a un objectif?
Nous, la raison pour laquelle on le fait, on n'avait pas vraiment d'objectif, parce que la raison pour laquelle on le fait, c'était d'attirer l'attention sur ce dossier-là, parce qu'on sait que les dossiers agricoles, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité. Oui. Les gens sont pas familiers avec l'agriculture, donc c'était une façon pour nous de l'expliquer, de le vulgariser.
Oui, ben justement, parlons-en de vulgarisation. Quand on parle de porc de spécialité, pour monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que l'élevage conventionnel a certaines règles et l'élevage comme biologique, les animaux vont à l'extérieur. Ils voient la lumière du jour. Ensuite de ça, ils ont plus d'espace. Dans certains cas, jusqu'à 3 fois plus d'espace que l'élevage conventionnel. Ils sont pas élevés dans des cages. Ils n'ont pas d'antibiotiques. Il n'y a pas de pesticides qui est utilisé. On a de la paille là ou du matériel pour que l'animal soit plus confortable à tous les stages de production. Les queues et les dents ne sont pas coupées. T'sais, toutes les pratiques un peu controversées d'élevage conventionnel dans l'élevage biologique sont éliminées. Pour ce qui est de la certification bien-être animal, c'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas l'obligation d'envoyer les animaux à l'extérieur, il n'y a pas l'obligation d'avoir des grains certifiés biologiques là, qui sont beaucoup plus dispendieux. Donc, c'est des façons d'élever les animaux qui sont, qui répondent là, aux nouvelles exigences des consommateurs qui veulent pas que les animaux soient élevés en cage, qui sont conscients, peut-être plus conscients de ce qu'ils ont dans leur assiette là, qu'on l'était à l'époque.
Et ce que vous reprochez au syndicat des éleveurs de porc du Québec, c'est de ne pas faire la promotion de ça, malgré les cotisations qui sont prises pour faire la promotion du porc.
Ce qu'il faut se dire, c'est que cette loi-là de mise en marché collective, la première des choses, c'est qu'elle oblige un producteur à mettre son produit en marché à travers son syndicat. Il ne peut pas le faire directement. Et même si vous possédez une usine de transformation puis vous avez des animaux, vous ne pouvez pas les mettre en marché directement. Vous devez passer par votre syndicat. Et par la suite, bon ben, c'est les lois obligent les transformateurs à avoir des ententes avec le syndicat là, pour s'approvisionner. Et ça, ça rend les choses très complexes. Et puis, ce qu'on reproche aux éleveurs de porc du Québec là, et à leur syndicat, plutôt parce que c'est le nom du syndicat des éleveurs de porc du Québec, anciennement c'était la Fédération des producteurs de porc là, qui sont responsables, qui sont l'office de mise en marché mandaté par la loi pour administrer la production. Ce qu'on leur reproche, c'est que au fil des 25 dernières années, nous, on a tenté de faire adapter les règlements pour permettre aux éleveurs indépendants, puis nous permettre à nous de développer des créneaux différents, comme l'élevage biologique, comme l'élevage certifié bien intégral. Et je dois vous avouer que c'est un véritable chemin de croix. Et là, maintenant, la dernière convention, imaginez même un producteur qui viendrait travailler avec du breton, qui est par exemple actuellement chez Alimel, ou à la limite chez d'autres transformateurs, il s'en viendrait chez nous et il y a des garanties pour les transformateurs qui fait que ce producteur-là pourrait même se voir demander d'abandonner l'assurance stabilisation des revenus parce qu'il y a des garanties à d'autres transformateurs. Donc, oui, on est cotisé, comme vous l'avez bien dit, sur... oui, de la recherche, oui, du marketing, mais également sur la fermeture de l'usine de Limel, les détournements d'animaux là, qui se passent par milliers à tous les semaines aux États-Unis avec la crise porcine qu'il y a eu et qui sévit encore. Donc, on est cotisé, ces pertes-là sont poulées et poulées sont mises ensemble. Et puis, les producteurs biologiques, les producteurs sortis bien intégral en paient le prix pour du breton, nous, l'année dernière, sans être compensé, c'est une facture de 1,8 million. Donc, c'est ça qu'on conteste, c'est ce qu'on dit que c'est une façon de faire qui est inéquitable, qui est pas correcte.
Oui.
Et puis, on veut voir ça modifié. Mais devant la non-attention du syndicat des producteurs, devant l'inaction du MAPAC et du ministre de l'Agriculture, ben, on n'a pas ben d'options, hein. Il y a un recours qui est prévu à la loi. Et ce recours-là, ben, on tente de l'exercer.
Oui. Et vous avez cessé de payer les cotisations.
Oui, avant les fêtes, on a cessé de payer les cotisations. Et puis, là, bien sûr, le syndicat conteste ça.
Oui.
Mais, dans le fond, aujourd'hui, on paye des cotisations pour nos compétiteurs, ce qui n'a fait aucun sens. On paye des cotisations dans le vide. Le syndicat des producteurs de porc, des éleveurs de porc du Québec, ne nous offre aucun service, ne fait aucun travail. Donc, tout ce qu'on fait, c'est aider nos compétiteurs en ce moment.
Absolument. Et qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si le bras de fer se poursuit dans ce dossier-là?
Ben, ce qui arrive de pire, et ça a été évoqué dans d'autres cas, là, le problème, c'est que vous voyez, le nombre de producteurs indépendants au Québec est en chute libre. Il y avait, à l'époque, plus de 1500, 2000 producteurs indépendants. Maintenant, des adhérents à l'ASRA, il en reste au programme d'assurance stabilisation. Là, c'est une façon d'évaluer combien il y a de producteurs en activité. Il en reste à peine à peu près 500 et 600. Et là-dedans, il y a, dans ce nombre-là, là, il y a tous les regroupements d'entreprises, que ce soit des coops, de l'email, d'Asta, de tout le monde. Donc, l'estimation que les gens disent dans le champ, là, et ça peut être contesté ou légèrement, mais l'ordre de grandeur, on parle qu'il restait des producteurs vraiment indépendants, il en reste entre 80 et 125 à peu près. Des producteurs vraiment indépendants.
Ouais.
Donc, ce que ça fait, c'est que comme les lois et les règlements nous empêchent, dans certains cas, d'avoir des ententes avec eux, ou tout ça, ben ça limite leur choix. Pour l'instant, ces animaux-là, ces producteurs-là, beaucoup de leurs animaux sont déportés vers les États-Unis. Donc, ce qui arrive, c'est que tranquillement, ces producteurs-là se tannent avec la pression de voir leurs animaux déportés vers les États-Unis, l'impact que ça a. Parfois, ils n'ont pas de relève et autres. Donc, on n'a pas de renouvellement et de plus en plus, l'industrie se concentre. Et ce que ça fait, étant donné que les coûts et les cotisations sont très élevés, hein, dans certains cas, on a parlé de 10 à 12 $ par part là, avec l'ensemble des éléments. Et ça devient à ce moment-là intéressant de s'approvisionner ailleurs puis de développer ailleurs. On a dû le faire au début des années 2000 parce qu'avant 2009, encore là, les règlements ne permettaient pas d'avoir des cahiers de charges. Du breton, on ne pouvait pas, par exemple, aller voir un éleveur indépendant puis développer de la production certifiée bien-être animal ou de la production biologique. Donc, on a dû se tourner vers les autres provinces pour développer notre approvisionnement puis adresser ce créneau de marché-là. Donc, dans le fond, les lois, les règlements actuels nous empêchent de développer notre modèle d'affaires. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui, parce que les producteurs, ils perdent des options de mise en marché pour leurs produits, puis ils se trouvent trappés dans un modèle où il y a un seul produit, un seul modèle, et c'est celui du port de commodité là, qui est toujours élevé en cage, soit dit en passant.
Et qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux à la suite de vos actions?
Ben, ce qui pourrait arriver de mieux, je vous dirais, nous, on a demandé, quand on a fait ce demandat avant de déposer à la régie des marchés, on a demandé l'appui du syndicat des producteurs de porc et même de l'UPA. Et on pense que notre démarche, bien sûr, elle est pour nous, elle est pour notre entreprise, mais d'autres producteurs, parce que d'autres producteurs sont traités de la même façon que nous, sont traités justement, hein, entre autres des producteurs qui achetaient des porcelets, par exemple, dans une province voisine, au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, ont subi les mêmes affronts, ont subi les mêmes injustices. Nous, ce qu'on demande, dans le fond, ce qu'on se dit au syndicat des producteurs, ce que vous faites, ça n'a pas de bon sens, c'est pas équitable. Revoyez les gens qui sont pas compensés par le système de l'ASRA, revoyez votre modèle, puis mettez des cotisations qui font du sens pour, oui, l'administration du plan conjoint, mais dépassez ça, laissez-les tranquilles, laissez-les développer leur entreprise, laissez-les innover, laissez-les faire leur travail. Donc, cette conscience-là, je pense que elle devrait normalement avoir lieu, mais en tout cas, c'est pas encore le cas. Et je vous dirais, c'est l'autre élément aussi, il faut pas oublier que là, les gens se cachent derrière les règlements, derrière les conventions, mais dans la loi, le ministre a tout le loisir de modifier une décision de la régie, d'intervenir directement, et tout ça est prévu à la loi. Il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Je me demande pourquoi, parce que, à moins que ça fasse partie de la stratégie de voir les producteurs disparaître, puis qu'on veut encore là un modèle unique et un quasi-monopole, mais tout ça est possible et est déjà prévu dans la loi. Alors, on n'a pas besoin de nouvelles lois pour faire ça. Et la même chose, l'exemption que nous on demande, c'est aussi quelque chose, c'est pas quelque chose de farfelu ou qui n'existe pas, c'est prévu à la loi. Donc, il existe des mécanismes, que ce soit par une exemption, que ce soit par l'intervention du ministre, ou que ce soit par une sensibilisation soudaine du syndicat des producteurs, cette situation-là pourra se régler très, très rapidement.
On veut signer la pétition, qu'est-ce qu'on fait?
Vous allez sur le web, il y a un onglet là, sur notre site web, on est également présent sur Twitter et Facebook, là où les liens sont là, donc c'est assez facile et convivial. Là.
Monsieur Breton, merci de nous avoir parlé ce matin.
Merci, au revoir.
Au revoir. On a parlé avec Vincent Breton, président de Du Breton.